Il est 5h57, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avec vous, ma chère Céline Dacosta. Des températures en baisse aujourd'hui.
Oui, mais encore un petit peu au-dessus des normales. Les journées les plus froides de la semaine seront normalement mercredi et jeudi. Ensuite, ça va remonter doucement. En attendant, ce matin, on a 5 degrés à Orléans, à Lille, 7 à Strasbourg, 8 à Caen, Tours, Paris, 9 à Toulouse et Nîmes. Il en fait 11 à Biarritz, 13 à Perpignan, 16 à Nice et déjà 17 à Bastia. Cet après-midi, la moyenne ira de 8 degrés à Strasbourg, à 17 près de la Méditerranée, en passant par 10 à Paris et Lyon, 12 à Brest et 14 à Bordeaux.
Écoutez ciel, Céline.
Encore beaucoup de nuages, notamment sur l'Est, avec des averses ponctuelles, de la neige sur les reliefs. On a du soleil toute la journée près de la Méditerranée, avec un vent qui faiblit et qui est déjà ce matin beaucoup plus calme que ce week-end. Soleil aussi ce matin pour la Bretagne et les Pays de la Loire. Il gagnera cet après-midi toute la moitié ouest de la Bretagne, Normandie, même la pointe nord, jusqu'à la région Midi-Pyrénées, en passant par la région Centre et le Limousin. Les autres resteront sous les nuages, avec encore des averses ponctuelles, de la neige sur les reliefs, peut-être quand même quelques rayons de soleil dans tout ça.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'allégresse informative et de retrouvailles émouvantes comme ce matin avec Céline Kallmann. Céline, gouailleuse présentatrice du journal de 6h, qui est indéniablement la toute fraîcheur de notre matinale.
Vraiment une racaille. C'est mon surnom à Autoroute FM. Ouais, la Caïra.
Céline qui était absente vendredi, remplacée par un journaliste sympathique au demeurant, mais dont on n'a pas très bien compris le nom. Krebs. On n'a rien compris, mais on s'est bien marré. Et le journal de 6h de Sébastien Krebs.
C'est des Krebs.
On dit pas Sébastien Krebs.
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 On se fait Krebs.
Il y a un B.
Oui, mais c'est comme si c'était un
Krebs.
Krebs.
Ah, moi je croyais que c'était Krebs.
Salut.
Ah, comme une crêpe.
Ça va?
Oui, comme une crêpe finalement. Ah, quel bonheur de retrouver quelqu'un portant un nom simple à prononcer. Bonjour Céline Kallmann.
Voilà.
D'accord. Non, rassurez-vous, le son n'est pas parti au bon moment. C'est dommage.
Ah oui, d'accord.
On devait faire la promotion de Fabrice Dalméda et sa chronique histoire qui suivra votre journal. Ça promet d'être passionnant puisqu'en cette journée mondiale des droits de l'homme, Fabrice va revenir sur la déclaration universelle du 10 décembre 1948 pour se demander si le droit à l'insurrection qu'elle contient s'applique aux gilets jaunes.
Merci d'écouter Europe 1 en ce lundi 10 décembre. Il est 6h, très bon réveil. 5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce lundi 10 décembre, voici le journal de Céline Kallmann.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, Céline.
Emmanuel Macron prendra la parole ce soir à 20h après avoir rencontré toute la journée élus, responsables syndicaux et politiques. Le chef de l'État va-t-il réussir à mettre un terme à la mobilisation des Gilets jaunes? Mobilisation dont les conséquences sont catastrophiques pour de nombreux commerces, notamment à Paris. Dans l'actualité également, une première dans notre pays, un label bien-être animal, un étiquetage très précis de la volaille.
Europe 1.
Les gilets jaunes sur les ronds-points le disent et le répètent, ils n'ont pas fait tout ça pour se contenter de miettes. Ce soir à 20h, Emmanuel Macron va s'adresser à la nation et faire des annonces. Sans doute l'allocution la plus importante du chef de l'État depuis le début de son quinquennat. Va-t-il trouver les mots? C'est la question pour apaiser la colère après un nouveau samedi de violence. Avant de parler aux Français, il va recevoir les présidents de l'Assemblée, du Sénat, les élus locaux et les partenaires sociaux. Virginie Riva.
Le président est pugnace, c'est ce que nous dit l'un de ses conseillers, tout à fait déterminé pour l'acte 2, renchérit l'un de ses proches. En clair, il reprend la main après la mobilisation de samedi. Il a travaillé tout le week-end, il a des idées de mesures qu'il va affiner ce matin lors de sa large concertation, nous explique un conseiller. Le but, écoutez, il doit être une chambre d'enregistrement, nous dit ce conseiller. Le ton est donné, celui d'un président qui respecte et écoute les corps intermédiaires et ceux qui vont être les plus choyés, ce sont les maires, souligne un de ses proches. À l'issue de cette réunion, le président devrait annoncer quelques mesures d'urgence, mais la liste ne devrait pas être très longue. S'il annonce 50 mesures face caméra, ça voudrait dire qu'il a tout fait seul, nous glisse un conseiller, alors qu'une grande consultation publique commence le week-end prochain. En attendant, le président va s'exprimer ce soir à 20h à l'Élysée, dans un cadre qui ne doit pas être trop pompeux. C'est en tout cas le conseil de l'un de ses proches, pour lequel cette parole est très importante. Un ministre enfonce le clou. La réponse présidentielle doit être à la hauteur de l'attente, et l'attente est considérable.
Virginie Riva, émission spéciale sur Europe 1 avec à 20h l'allocution du chef de l'État suivie d'un décryptage. Hier, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a affirmé qu'il n'y aurait pas de coup de pouce supplémentaire au SMIC, sauf qu'un peu plus tard, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé et des Solidarités, a lancé que le chef de l'État voulait tester un certain nombre d'hypothèses avec toutes les personnes qu'il va recevoir aujourd'hui. Et elle a eu cette phrase, il faut que les travailleurs au SMIC sentent leur pouvoir d'achat augmenter.
En tout cas, Céline, la mobilisation de samedi a été aussi forte que la semaine précédente.
Oui, 136 000 manifestants manifestants avec cette fois un record d'interpellations, près de 2000 à travers tout le pays, dont plus de la moitié à Paris. Pour éviter la casse, le gouvernement avait opté pour une stratégie de prévention. Le parquet de Paris va revoir à la hausse le nombre d'audiences aujourd'hui et demain pour faire face au nombre de prévenus.
Bruno Le Maire a parlé hier de catastrophe pour notre économie.
De nombreux commerces sont restés fermés samedi, quatrième week-end de perte à quelques semaines de Noël, -20 à -25 % de chiffre d'affaires selon la Fédération du commerce et de la distribution. Mais hier à Paris, les magasins étaient ouverts et les clients au rendez-vous. Justin Morin.
À deux pas des grands magasins, la vitrine de la boutique de Christophe est encore recouverte d'une protection noire. Mais une petite affiche vient rappeler que le magasin est bien ouvert. À l'intérieur, le commerçant essaie de positiver.
Une ouverture du dimanche représente 10% de ce qu'on aurait dû faire le samedi, donc des pertes sèches. Maintenant, tout est mis en œuvre pour justement essayer de booster le chiffre d'affaires, les intéressements des vendeurs, des vendeuses et de garder en tout cas un bon dynamisme.
Même combat dans les grands magasins voisins, pas de chiffre officiel pour ce dimanche, mais on nous parle d'une bonne fréquentation. Sylvie, un peu en colère, a les bras remplis de sacs pour ses courses de Noël.
Pas fini, mais faut bien prévoir parce qu'on se doute que samedi prochain, ça va recommencer.
Esther et David préfèrent le prendre avec le sourire.
On essaye de se rattraper.
Bah oui, vraiment.
Vous êtes en retard dans les cadeaux ?
Mais on n'a rien fait. On n'a rien fait, on n'a rien acheté. De tous les week-ends depuis 3 semaines, ils sont jaunes, des yellow days. On ne pouvait rien faire, donc on n'a que le dimanche pour se rattraper. Donc voilà, on est venu un peu tard, je crois, parce que vraiment, ça a été pris d'assaut. Mais on va essayer de se rattraper quand même un petit peu.
Le couple se rassure, il reste du temps avant Noël, mais il ne serait pas contre une journée de mobilisation plus calme samedi prochain.
Justin Morin pour Europe 1. Effectivement, l'acte 5 de la mobilisation a déjà été lancé par des gilets jaunes sur les réseaux sociaux avec comme priorité des mesures liées au pouvoir d'achat.
Europe 1, il est 6h04.
Si vous mangez du poulet, vous allez désormais pouvoir savoir exactement comment la cuisse qui se trouve dans votre assiette a été traitée tout au long de sa courte vie.
Oui, et la traçabilité existe déjà, il faut le savoir, mais cette fois, il s'agit d'un label sur le bien-être animal. C'est une première en France, lancée par le groupe Casino qui veut étendre cet étiquetage à toutes les viandes, les yaourts et les produits d'élevage en général. Dans le cas de ces poulets, il y a 4 niveaux de A à D, supérieur, bien, assez bien et standard. Les précisions avec Ève Roger.
Pour décrocher la meilleure note, le A, il faut répondre à 230 critères et ça concerne l'ensemble de la vie de l'animal, de sa naissance jusqu'à sa mort. Je vous donne quelques exemples. Les agriculteurs doivent élever moins de 11 poulets par mètre carré. C'est 2 fois moins que pour un poulet standard. Ou ne pas imposer aux animaux plus de 3 heures de transport jusqu'à l'abattoir, là où une vidéo doit vérifier le déchargement et la qualité de l'étourdissement des bêtes. La centaine d'éleveurs qui travaillent pour la marque concernée du groupe Casino sont donc en train d'être notés. C'est le cas de Christian Laforêt, éleveur dans le Gers. Ça n'a pas été trop difficile pour lui de décrocher un A, car il est déjà estampillé label rouge. Il a simplement dû investir dans quelques perchoirs.
Pour en gros agrémenter l'air de vie des poulets, satisfaire un besoin naturel de se percher. C'est de l'agrément, c'est pas quelque chose qui est fondamental. Je pense que ça va surtout rassurer le consommateur.
Alors aujourd'hui, c'est un tout premier pas. Et l'espoir du groupe, c'est que d'autres enseignes nationales rallient ce nouvel étiquetage. La route est encore longue. En France, 700 millions de poulets sont produits chaque année. S'ils étaient notés, plus de 80% d'entre eux n'auraient qu'un D, la note standard.
Ève Roger pour Europe 1. Carlos Ghosn va-t-il être mis en examen ? Le patron de Renault se prépare à être inculpé et rester derrière les barreaux à Tokyo. Il devrait être poursuivi pour avoir oublié de déclarer aux autorités boursières près de 40 millions d'euros entre 2010 et 2015. Une attaque dans le nord de la Cisjordanie. Plusieurs Israéliens blessés par balle alors qu'ils se trouvaient à une station de bus. Parmi les victimes, une femme enceinte grièvement blessée.
Europe 1, il est 6h06.
Cinéma et 4 millions de personnes ont déjà sauté dans le grand bain.
Eh oui, la comédie de Gilles Lelouch vient de passer la barre des 4 millions de spectateurs. Le film avait déjà réalisé l'un des meilleurs démarrages de l'année. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est l'histoire de 8 hommes, un peu déprimés, voire beaucoup, qui se retrouvent le soir pour suivre des cours de natation synchronisée, normal. Super casting, Benoît Poulvorde, Guillaume Canet, Alban Ivanov, Virginie Efira. Mais attention, Gilles Lelouch, qui n'en revient toujours pas de ce succès du film, prévient, il n'y aura pas de suite.
Très honnêtement, j'en reviens pas. Parce que c'est exceptionnel et que voilà, c'est joli et que c'est beau et que c'est joyeux et que le film a su trouver le cœur des gens et il n'y a rien qui puisse me rendre plus heureux que ça. Donc c'est une espèce d'alchimie qui est très compliquée à comprendre, à cerner, à expliquer surtout. Donc voilà, je me suis sur une sorte de petit nuage et j'aimerais bien qu'il dure 100 ans.
Et alors forcément, on pense à une suite ?
Ah non, 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 je ne ferai pas de suite. Non, non, je ne me vois pas leur faire faire... je vais faire quoi ? Le grand bain fait du ski ? Non, non. Maintenant, j'ai envie de me taire, de m'éloigner, de prendre du temps et de réfléchir. Et voilà.
Le Grand Bain fait du ski, moi je vais le voir. Hein.
Mais oui.
Ou le Pédiluve. Enfin, il y a toutes sortes de suites
Gilles
qui sont possibles.
Qui était avec Mathieu Charrier.
C'était le journal de Céline Kallmann. Céline, dont vous vous demandez peut-être pourquoi elle a pris un jour de congé vendredi. Eh bien, pour avoir la réponse, il suffisait d'écouter jeudi.
Les gilets jaunes, ils veulent plus qu'un gel.
Et oui, on est tous fatigués, surtout Céline. Heureusement, Noël approche. À suivre cet historique, le fact-checking par l'histoire et en cette journée mondiale des droits de l'homme, Fabrice Dalméda reviendra sur la déclaration universelle 10 décembre 1948 pour se demander si le droit à l'insurrection qu'elle contient s'applique aux gilets jaunes.
Alors, pas, il est 6h08. Il est 6h09, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta.
Encore beaucoup de nuages.
Oui, c'est ça, c'est couvert.
Bon, ouais, ça, sur les trois quarts du pays, le soleil brillera quand même sur la Bretagne, les Pays de la Loire ce matin, près de la Méditerranée aussi. Mais pour les autres, les averses seront ponctuelles. Il neigera sur les reliefs de l'Est à basse altitude et sur le Massif central. Amélioration sur tout l'Ouest cet après-midi avec le soleil qui va gagner toutes les régions de la Bretagne, Normandie jusqu'au Midi-Pyrénées. Soleil aussi des Pyrénées aux Alpes du Sud et sur la Corse. Encore des nuages et des averses pour les autres avec de temps en temps un rayon de soleil. Les températures commencent à baisser, mais restent toujours un peu au-dessus des normales de saison. La moyenne cet après-midi ira de 7 à 17 degrés du nord au sud.
Merci Céline. Et Baroque.
Chaque année, vous savez, les chaînes de télé diffusent le film de Noël, comme Love Actually ce soir, dont on reparlera tout à l'heure sur W9. Alors à vous, quel est votre film de Noël? C'est la question qu'on a posée sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Eh bien, Ener et Manuel nous ont répondu tous les deux la même réponse. Sissi, évidemment. Manuel nous précisant, mais oui, la trilogie des Sissi. Emmanuel nous précisant, pour un peu d'exotisme, je vous conseille de le regarder en allemand avec les sous-titres.
Ah, voilà, pas sûr.
Continuez à nous envoyer vos messages sur Twitter, hashtag Europe 1.
Merci, chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
6h10, et voici un des moments, si ce n'est le moment, que Céline Dacosta préfère, le journal des sports. Céline qui, chaque matin, durant le JDS, boit littéralement les paroles de Jérôme Lacroix, et même parfois, lorsqu'il est question de sélectionneurs au nom rigolo, elle les mangerait.
Selon sélectionneur Olivier Crumbles.
À chaque fois, ça me fait penser quand même que je n'ai pas goûté le tien de Crumbles.
Jérôme, le journal des sports est-il appétissant ce matin? À la une, en tout cas, l'histoire d'un voyage bien particulier.
Oui, celui auquel vont prendre part demain 500 supporters du Paris Saint-Germain, près de 2000 km direction Belgrade en Serbie, là où demain, leurs joueurs préférés doivent s'imposer s'ils veulent être sûrs de se qualifier en 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est un déplacement risqué, tant et si bien que le club, le PSG, a tout organisé, tout cadré en fait. 3 avions à fretter, des navettes dès l'aéroport direction le stade, retour à Paris tout de suite dans la foulée du match surtout. Aucun contact ne doit survenir entre fans français et serbes. Jonathan sera parmi les supporters parisiens. 6 ans de déplacement, il n'a pas souvenir d'un voyage à ce point encadré.
Forcément, il y a une petite crainte parce que c'est un pays qui est très sulfureux en matière de supporterisme. Je pense que mes parents vont être inquiets de savoir que je vais à Belgrade, par exemple. Mais je pense qu'on n'aura pas de contact avec les supporters serbes. Très sincèrement, non, j'ai pas plus peur que ça.
Des propos recueillis par Julien Froment, Belgrade PSG, demain 21h. Le foot ce matin, c'est aussi une fête, la fête à Madrid. Avant et après la finale retour de la Copa Libertadores hier, l'équivalent de la Ligue des Champions pour l'Amérique du Sud. Finale entre deux clubs argentins de Buenos Aires, archi-rivaux River Plate, l'a emporté 3-1 après prolongation face à Boca Juniors. Des violences entre supporters avaient entraîné 2 reports du match en Argentine jusqu'à finalement cette délocalisation en Espagne. Hier, tout s'est bien passé. Le foot en France, 17e journée de Ligue 1, hier 1 partout entre Lille et Reims, 2 partout entre Strasbourg et Caen.
Le handball, Jérôme, est l'équation simple des Françaises.
Une victoire égale une demi-finale au championnat d'Europe qui se tient en ce moment en France. Les Bleus doivent s'imposer mercredi face aux Serbes, dernier match de la seconde phase de groupe pour être sûr de rejoindre le dernier carré. Les tricolores de Grace Zahadi sont maîtresses de leur avenir malgré hier un résultat nul concédé 21 partout face aux Suédoises.
Pas de calcul à faire. On a encore notre destin entre les mains. On a de la chance de pouvoir encore l'avoir. Et il faut qu'on aille chercher ce qu'on veut. Hein. Donc il va falloir qu'on gagne ce match-là.
Des propos recueillis par Christophe Lamar, France-Serbie, mercredi, 21h. Côté garçon, en handball, les joueurs du PSG sont premiers ce matin de la D1 après 12 journées. Grâce à un succès 32-24 à Montpellier, les Montpelliérains sont troisièmes.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
La fin d'une série de régularités rarissimes au plus haut niveau. Benjamin Pavard, vous savez, le footballeur champion du monde, il a quitté hier la pelouse en cours de match avec Stuttgart. Il s'est blessé et voilà qui a mis fin à une incroyable série de 58 8 rencontres consécutives complètes disputées par le Français avec le club allemand. Il n'avait plus manqué une seule minute de jeu depuis le 10 mars 2017.
C'était le journal des sports. Merci beaucoup Jérôme Lacroix. Merci pour votre incroyable polyvalence. Journal, revue de presse, journal des sports, imitation de Gérard Holtz. Je suis sûr que si je vous demande comme ça de lancer la rubrique histoire de Fabrice d'Almeida en chantant du twist, vous le feriez.
Oh d'Almeida.
Incroyable Jérôme Lacroix, quel talent.
C'est moi ça.
Voici en effet le plus rock'n'roll des historiens.
C'est vrai.
Fabrice d'Almeida qui en cette journée mondiale des droits de l'homme revient sur la déclaration universelle du 10 décembre 1948.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice d'Almeida.
Bonjour.
Le 10 décembre 1948 était donc adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme. En quoi est-ce toujours d'actualité?
Parce que ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de droit à l'insurrection autour des Gilets jaunes. Or, la Déclaration universelle justifie dans son préambule la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Une idée que l'on trouve déjà dans la Déclaration d'indépendance américaine de 1776, puis dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et dans la Déclaration des droits de 1793. Un texte très à gauche qui dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ».
Donc, les manifestants seraient fondés à se révolter, selon les juristes les plus radicaux, les plus révolutionnaires, disons.
En fait, non, car ces textes font référence à une vraie tyrannie. L'oppression militaire pour les colonies américaines en 1776, les privilèges en 1789, la guerre en 1793. Enfin, en 1948, le nazisme hantait les rédacteurs comme René Cassin, le juriste de la France libre. La Ve République n'est évidemment pas une tyrannie malgré les tensions sur les taxes, le partage des richesses ou l'immigration. Petit rappel, les mouvements insurrectionnels sont punis par le code pénal.
Et est-ce que tous les pays membres de l'ONU respectent cette déclaration?
Le texte n'est pas contraignant. Alors les membres de l'ONU peuvent refuser d'y adhérer. Ainsi, l'URSS a participé à son élaboration en 1948, mais ne l'a pas adoptée. Les États-Unis, eux, ont été moteurs alors que la ségrégation raciale y persistait. Comme tant de dirigeants bafouent les droits de l'homme, les peuples doivent les pousser à les appliquer. D'où l'importance de célébrer cet anniversaire.
Merci beaucoup Fabrice et comme Jérôme Lacroix, j'ai envie de vous dire...
Oh d'Almeida,
n'est qu'un jeu pour toi.
L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain juste avant 6h15.
Europe 1.
Et dès 6h16, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures de bonne humeur, d'actu et d'invités qui la font. À 6h20, à l'occasion de la conférence internationale sur la migration qui se tient jusqu'à demain à Marrakech et où sera adopté le fameux pacte de Marrakech qui, dans le sillage de certains gilets jaunes, fait couler beaucoup d'encre, nous recevrons l'ethnologue Frédéric Schluss qui nous aidera à y voir plus clair, à démêler surtout le vrai du faux, ce qui ne fera pas de mal. Un bien séduisant programme, comme vous pouvez le constater Céline, mm-hmm. Mais je crois qu'il est temps de laisser place à un jingle particulier dans cette matinale.
Ouais. C'est le moment de tout vous dire sur notre grand jeu sur Europe 1 et à gagner aujourd'hui le tout nouveau MacBook Air.
À tout moment, une fausse pub peut être diffusée sur notre antenne, c'est le signal pour participer. Par exemple, vendredi, c'est celle-là qu'il fallait identifier.
Golemont présente.
La planète était en danger, la fin du monde approchait. Il devait sauver la planète et puis, finalement, non.
Le remake moderne du chef-d'œuvre de Jacques Tati.
Les vacances de Monsieur Hulot.
Au lieu de sauver la planète, il a démissionné et puis, il est parti en vacances.
Mais pourquoi est-il parti en vacances, au lieu de sauver notre planète?
Parce qu'il savait que pour sauver la planète, le diesel allait augmenter et que tout le monde allait lui tomber dessus.
Les vacances de Monsieur Hulot.
Avec pour la première fois sur grand écran, Nicolas Hulot qui incarne Monsieur Hulot.
D'après l'œuvre de Jacques Tati. Enfin, surtout le titre.
Si pendant la journée une fausse pub est diffusée et qu'on a très très envie d'un MacBook Air, que peut-on faire?
Eh bien, vous envoyez pub par SMS au 7 39 21, c'est 75 centimes plus le coût du SMS. Alors vous appelez le 39 21, 50 centimes par minute. On vous souhaite bonne chance pour remporter, on vous l'a dit, ce qui va gagner un tout nouveau MacBook Air.
Ah oui, on l'a dit, c'est très excitant.
Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
La crise des gilets jaunes suite, journée décisive pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État va passer la journée à dialoguer avec les partenaires sociaux, les associations d'élus. Il s'adressera ensuite aux Français depuis le palais de l'Élysée. Hier soir, la ministre du Travail a annoncé la couleur concernant une possible hausse du SMIC. Un coup de pouce supplémentaire? C'est non, a déclaré Muriel Pénicaud. Enfin, 3 semaines après son arrestation à Tokyo, Carlos Ghosn arrive au bout de sa garde à vue. Il pourrait être inculpé aujourd'hui et rester en prison.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Nouvelle.
Voici pour les titres de ce 10 décembre 2018. Et l'actu aujourd'hui, c'est aussi la conférence internationale sur la migration qui s'ouvre à Marrakech, au Maroc. C'est là que sera adopté le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Bonjour Frédéric Schluss.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue, directrice du département au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Vous publiez avec une quinzaine de chercheurs un manifeste sur les migrations. Un manifeste qui promeut quel message, quelle vision de l'immigration ?
Le message, c'est un message scientifique, tout d'abord, évidemment. Et qu'est-ce que promeut ce manifeste ? C'est que les migrations ont toujours existé, la mobilité propre des êtres vivants et aussi que l'histoire des migrations nous raconte l'histoire humaine depuis 1,8 million d'années.
Alors justement, vous prenez du recul, vous avez l'analyse scientifique. Pour revenir dans une analyse qui est, disons, un peu moins scientifique, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, a affirmé sur Twitter qu'avec le pacte de Marrakech, la France reconnaît un droit à l'immigration généralisée. Certains gilets jaunes ont repris cette idée pour la dénoncer. Or, il faut peut-être rappeler tout simplement que déjà, ce pacte de Marrakech n'est pas contraignant. On est dans un fantasme, là, sur ces...
Oui, il n'est absolument pas contraignant. C'est écrit dès les premières pages, les États restent totalement souverains.
C'est
par rapport à ce pacte. Oui, c'est un engagement plus moral ou un idéal à atteindre.
Alors justement, avec votre manifeste, vous espérez que le grand public, les politiques et les médias prendront enfin un peu de recul sur cette question migratoire. Il y a beaucoup de fantasmes autour de cette question.
Oui, il y a beaucoup de fantasmes sur les chiffres. Et aussi, le manifeste souhaite rappeler qu'il y a des réalités biologiques, démographiques, historiques, sociales, qu'il faut prendre en compte. Et on souhaite en fait partager, sur un petit texte assez court, puisqu'il fait une quinzaine de pages, partager un certain nombre de faits et d'analyses scientifiques.
Justement, quels sont les grands chiffres qui permettent de recadrer un peu les débats ?
Les grands chiffres, alors il y a un chiffre intéressant, c'est qu'il y a seulement 3% de la population qui migre effectivement. 97% est né, vit dans le pays dans lequel il est né.
Ça, c'est effectivement un chiffre
auquel
on ne s'attend pas, parce qu'on en parle tellement.
Et les flux migratoires sont surtout concentrés sur le sud, c'est ça ?
Oui, en fait, ce qu'il faut aussi dire, c'est... Non, il y a beaucoup de flux migratoires. Il y a des flux qui sont sud-nord, des flux qui sont est-ouest, des flux qui sont sud-sud. Mais ce que l'on craint souvent, c'est cette thématique du grand remplacement, mais en fait, qui n'a pas de sens, parce qu'en Afrique, il y a quand même... 84% des populations qui restent à proximité quand ils migrent dans le pays à côté
de
chez eux.
En Afrique.
Voilà, c'est ça.
C'est ça qu'il faut rappeler. On est aujourd'hui la journée mondiale des droits de l'homme. Vous rappelez aussi que le droit à circuler librement fait partie de la déclaration des droits de l'homme. C'est l'article 13. On a tendance un peu à l'oublier.
Oui, toute personne a le droit de quitter son pays.
Le pacte de Marrakech, dont on parle beaucoup aujourd'hui, prévoit un ensemble de règles communes pour l'accueil et la gestion des flux migratoires. Comment on peut concilier, en fait, à la fois ce droit à la mobilité individuelle et puis la souveraineté des États à décider de leur politique migratoire, selon vous ?
Alors, le manifeste n'est pas prescripteur ni de morale ni de politique. C'est partager des faits, ce qui est important. Comment concilier ? C'est peut-être déjà avoir des données fiables pour que les États puissent décider avec l'ensemble des éléments. Et le premier objectif, ce qui est intéressant dans le pacte de Marrakech, c'est que le premier objectif, c'est avoir des données et des données comparables entre les différents pays.
Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études qui sont faites ampleur.
Il y a des études, mais en fait, après, chaque pays définit la migration telle qu'il l'entend. Par exemple, au Japon, on est migrant à partir du moment où on passe plus d'une semaine au Japon.
Ah oui, d'accord,
donc,
c'est-à-dire qu'en fonction des pays, d'accord.
Pour comparer en fonction des pays, c'est pratiquement impossible.
Pour rester sur ce pacte de Marrakech, il est non contraignant, c'était bien de le rappeler, mais il y a quand même pas mal d'avancées. Ce texte recense des principes, défense des droits de l'homme, des enfants, reconnaissance de la souveraineté nationale. Il liste des propositions pour aider les pays à faire face aux migrations, échange d'informations, expertise, intégration des migrants. Il interdit les détentions arbitraires, n'autorisant les arrestations qu'en dernier recours. C'est quand même un texte ambitieux.
Oui, c'est un texte ambitieux parce que ce qu'il faut aussi noter, les analyses le montrent, c'est qu'il y a un inégal droit à la circulation. Vous m'interrogiez tout à l'heure sur le droit à la circulation, il est totalement inégal. Les pays développés, riches, ont droit, les personnes ont le droit de migrer. Ce sont des expatriés, des personnes qui vont travailler, des coopérants, alors que dans l'autre sens, il y a un frein à cette migration. Donc il faut effectivement réfléchir. Le titre, je crois, c'est des migrations sûres, ordonnées et régulières.
C'est ça. Je vais me faire l'avocat du diable l'espace d'un instant. Sur ce pacte de Marrakech, on a rappelé que c'était... Enfin, toutes les fantasmes qui circulent, on est dans la fake news, notamment parce qu'il n'est pas contraignant. Néanmoins, dans les faits, l'Italie, l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Suisse, l'Australie, l'Israël, la République dominicaine et d'autres encore refusent de le ratifier. Et Donald Trump pour les États-Unis. Donc pourquoi il refuse de signer quelque chose qui finalement n'est pas contraignant ? C'est juste l'idée même, il n'adhère même pas à l'idée. C'est ça qui est inquiétant, je trouve.
Oui, c'est assez inquiétant et c'est pour nous, scientifiques, on n'a pas d'explication, sauf à considérer après des questions politiques internes, de politique interne.
D'image vis-à-vis de l'électorat.
Oui, voilà, c'est ça, parce que vraiment, ce texte-là n'est pas contraignant. Mmh. Les États restent souverains, mais ça a été pareil lors de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on fête les 70 ans aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de tractations, il y a des pays qui n'ont pas voulu.
Ça, on l'a peut-être oublié, oui.
Oui, c'est
ça n'a pas été si simple, ça paraît évident aujourd'hui, Déclaration universelle des droits de l'homme,
on est tous d'accord. Et pourtant, cette Déclaration universelle des droits de l'homme, elle n'est pas non plus contraignante. Ce sont des idéaux à atteindre, et il y a eu les mêmes difficultés. Dans l'article 13, toute personne a le droit de quitter son pays, mais il n'a pas été question, en fait, de dire que tout pays devait accepter.
Accueillir. Oui,
voilà,
la,
c'est ça. On peut quitter son pays,
mais on s'est arrêté là.
Et donc, on voit bien que c'est quand même très compliqué à chaque fois, même pour ce qui est non contraignant.
Je rappelle votre manifeste, le manifeste du Muséum, très intéressant à lire et très court. Ça se lit rapidement, ça permet d'avoir un peu de recul sur l'actualité. C'est très utile. Merci beaucoup Frédéric Schlouz d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. On rappelle que vous êtes ethnologue et directrice du département au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.
Merci Europe 1.
Il est 6h25, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et le froid aussi, mais doucement.
.fr.
Il est 6h27, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Retour au calme après un week-end agité.
Oui, avec le vent notamment qui se calme dans le sud-est. Toutes les vigilances ont été levées cette nuit. On aura encore quelques bonnes rafales ce matin, notamment sur les Alpes et les côtes varoises, hein, jusqu'à 90 km/h, mais ça va encore faiblir et se calmer un peu plus dans l'après-midi. Côté ciel, du soleil près de la Méditerranée, mais aussi sur la Bretagne, les Pays de la Loire ce matin. Partout ailleurs, ça reste nuageux avec des averses ponctuelles, de la neige sur les reliefs, quelques rayons de soleil dans tout ça. Et pour les températures, ça baisse par rapport à ce week-end, mais on reste encore un petit peu au-dessus des normales avec une moyenne de 5 à 12 degrés pour ce matin, un petit peu plus près de la Méditerranée.
Au les cœurs, on aura un peu plus de soleil sur l'ouest cet
oui,
après-midi.
Toute la moitié ouest hein, profitera de larges éclaircies, la pointe nord également, les côtes méditerranéennes et la Corse aussi. En revanche, ça restera bien nuageux pour les autres. Hein. L'Île-de-France en fait partie avec encore des averses et de la neige sur les reliefs. Quelques rayons de soleil quand même dans tout ça comme ce matin. Puis il fera 7 degrés côté température à Besançon, 8 à Metz, 9 à Lille, 10 degrés au Havre et à Paris, 11 degrés pour Cherbourg, 12 à Brest et Toulouse, 14 à Bordeaux, 15 à Montpellier, 17 à Nice et encore 19 degrés à Bastia.
Merci Céline, restez avec nous dans une minute, le journal de 6h30.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2h pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire en compagnie de mes deux muses. Deux journalistes que j'ai injustement dépeintes comme nuls musicalement suite à une légère confusion l'autre jour entre Cool and the Gang et Earth, Wind and Fire, alors qu'elles ont au contraire des goûts musicaux très sûrs, comme en atteste ce furtif échange surpris durant une coupure pub vendredi.
Ah oui.
Céline s'enthousiasmait à l'idée d'assister à un concert d'un quatuor qu'elle adore. Un quatuor à cordes de Debussy, de Rachmaninoff, presque.
Ah, ils passent en concert les Boys to Men.
C'est ça ?
Les Boys to Men,
ils sont plus que trois d'ailleurs.
Je vais aller voir à Bercy.
Et oui, ils sont de retour les Boys to Men.
Eux,
ils ne sont pas quatre mais simplement trois, mais ils sont fantastiques aussi. Politique, économie, médias, ce matin grâce à Mickaël Darmon, nous tâchons notamment de savoir avant tout le monde ce qu'Emmanuel Macron compte dire ce soir dans son discours. Ce sera juste après le journal de 6h30 de David Doucan, avec qui peut-être si vous êtes sage, il y aura du
Lionel Gougelot
dedans.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue si vous nous retrouvez, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Emmanuel Macron va-t-il réussir à se réconcilier avec les Français ? Le président s'adressera à la nation ce soir à 20h sur toutes les chaînes. Des mesures en faveur du pouvoir d'achat sont attendues. Après un troisième samedi noir à Paris et dans plusieurs villes de province, c'est l'heure des comptes. Bruno Le Maire parle de conséquences catastrophiques pour l'économie. La mairie de Paris déplore des dégâts pires encore que ceux de la semaine dernière. Et puis nous vous parlerons du déplacement du Paris Saint-Germain à Belgrade en Ligue des Champions demain. On redoute des débordements entre supporters.
Europe 1.
Le chef de l'État s'adressera donc solennellement au pays ce soir à 20h, allocution depuis le palais de l'Élysée sur toutes les chaînes. Avant cela, il recevra les partenaires sociaux et les élus pour un round de concertation avec dans l'idée d'associer syndicats, patronats, mais aussi les parlementaires de tous bords aux mesures qu'il annoncera ce soir. Les attentes sont nombreuses, en particulier au sein même de la majorité présidentielle. Les marcheurs sont impatients et inquiets de voir leur leader mettre un terme à 3 semaines de crise. Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Surtout ne pas faire un grand discours sur la France de 2050. Emmanuel Macron doit parler à la France qui remplit son frigo. Les mots sont d'un député de la majorité, éprouvé par 3 semaines de crise, déçu par le discours du chef de l'État sur la transition écologique il y a 15 jours. Maintenant, il y a urgence, dit-il, le président doit mettre des points de suture sur la plaie, à savoir annoncer des mesures, des symboles forts. Certains élus plaident pour un coup de pouce aux minima sociaux, aux petites retraites. D'autres espèrent la reconnaissance du vote blanc ou même un référendum. Le président, et lui seul, tranchera, mais il faut qu'il reprenne l'initiative. Depuis le début, des Gilets jaunes ont réagi avec une semaine de retard, averti un cadre de la majorité, et qui scrutera aussi la forme. Humilité, écoute, surtout pas de ton martial, préconise-t-il. Il faut qu'Emmanuel Macron parle au cœur des gens, ajoute un marcheur. Aux Gilets jaunes, donc, à leur soutien, mais aussi sans doute à une partie de sa propre majorité, en plein doute depuis le début de la crise.
Adrien Beck du service politique d'Europe. Selon les quelques éléments qui ont fuité ces dernières heures, le chef de l'État s'apprête à présenter des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Mais la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, s'est exprimée hier. Une augmentation du SMIC ne serait, selon elle, pas la bonne méthode. C'est pourtant l'une des revendications les plus fréquemment exprimées par les Gilets jaunes. Car à ses yeux, car aux yeux de Muriel Pénicaud, cela serait destructeur en termes d'emploi. C'est une contestation sur plusieurs fronts à laquelle le gouvernement fait face depuis 3 semaines. La journée sera aussi marquée par une mobilisation des agriculteurs. Le monde paysan s'apprête aujourd'hui à interpeller les autorités par des actions dans toute la France, axées sur la pression fiscale qu'ils subissent et leur rémunération qu'ils jugent insuffisante.
Pour la 3e fois consécutive, la France se réveille le lundi pour faire les comptes.
Oui, la journée de samedi a une nouvelle fois été marquée par des émeutes à Paris et en province, avec des pillages et des destructions de mobilier urbain. Difficile à cette heure de chiffrer les dégâts, mais la mairie de Paris a fait savoir qu'ils étaient pires que samedi dernier parce que les violences se sont éparpillées sur un secteur plus vaste de la capitale. Parmi les différents secteurs durement touchés, il y a celui du tourisme. Les grands hôtels font état d'annulations en cascade. La clientèle internationale est en train de bouder la France. Les explications de Maud Descamps.
Qu'ils soient dirigeants d'hôtels, restaurateurs, tour opérateurs, l'expression employée est toujours la même. C'est une catastrophe. Le nombre de réservations pour les prochaines semaines est en baisse de 50% par rapport à l'an dernier et les clients sont nombreux à annuler leur séjour. À l'hôtel Hyatt Regency de Paris, un établissement 4 étoiles, ce sont plus de 2000 annulations en seulement quelques jours. Et en première ligne, la clientèle internationale, comme le souligne Christian Mouizard, président de la Fédération nationale des offices de tourisme.
Les tours opérateurs américains et japonais déconseillent à leur clientèle de venir en France. Aujourd'hui, nous avons un taux d'annulation à peu près de 20%, 25% dans les différents établissements qui nous font part effectivement de leur désarroi. Et donc, nous aurons du mal à rassurer cette clientèle.
Le manque à gagner pour le secteur du tourisme se compte déjà en dizaines de millions d'euros. C'est pire qu'après les attentats du 13 novembre, estime même le directeur d'un hôtel de luxe à 2 pas des Champs-Élysées. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, ce sont plus de 35 000 nuitées qui ont été annulées rien qu'à Paris.
Les informations de Maud Descamps du service économie d'Europe. Cet acte 4 de la révolte des Gilets jaunes a été marqué par une stratégie de maintien de l'ordre bien plus offensive. 1723 arrestations ont eu lieu en France au total samedi, dont 1 000 seulement à Paris. 974 gardes à vue ont été notifiées. 494 d'entre elles ont été classées sans suite. 278 personnes ont à l'inverse été déférées devant le parquet, selon les informations de Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe. Les représentants de plus de 150 pays se réunissent à Marrakech, au Maroc, pour approuver le pacte mondial sur les migrations piloté par l'ONU. Un texte qui polarise les critiques des nationalistes, notamment en Europe. De fausses informations circulent sur le web, accusant le gouvernement de vouloir, je cite, « vendre la France à l'ONU ». En réalité, ce pacte vise à aider les pays à faire face aux migrations à travers des échanges d'informations et d'expertise. Et c'est une déclaration de principe non contraignante.
À suivre dans ce journal, nous irons en Pologne où se déroule la COP24. Des projets innovants y sont présentés pour sauver la planète. A tout de suite.
Europe 1, il est 6h35.
Et pour le prélèvement à la source, de chef d'entreprise à chef d'entreprise, tu veux un bon conseil ?
Oui, vas-y.
Sûr ? Tu veux vraiment un bon conseil ?
Évidemment.
Alors prends un bon conseil. Tu prends un conseil ?
Oui. Et donc ?
Et donc voilà. Mon conseil, c'est que tu prennes un conseil.
Nico ?
C'est ce que j'ai fait, j'en ai pris un.
Oh, tu m'inquiètes, toi.
Pour le prélèvement à la source, le bon conseil, c'est l'expert comptable. L'expert comptable, un conseil qui compte. À Noël, on ne choisit pas la date de Noël. On ne choisit pas le temps qu'il fera, ni le temps qu'on passera à table. Et on ne choisit pas ses cadeaux. Mais à Noël, avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Retrouvez L'Ami prodigieuse saison 1 et Star Wars Les Derniers Jedi sur Canal+, Jumanji sur OCS et bien plus encore. Découvrez nos offres à partir de 19,90€ par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr.
Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan. La France vient de présenter un projet innovant pour sauver les barrières de corail.
Oui, vous le savez peut-être, un quart des récifs coralliens dans le monde sont morts. Ces poumons marins dépérissent en raison du réchauffement. Eh bien, des chercheurs français, dans le cadre de la COP24 en Pologne, proposent une idée nouvelle. Régénérer le corail avec, Mathieu, vous ne devinerez jamais,
ah non,
avec de la dentelle.
De la dentelle.
Les explications de l'ordre d'Autriche.
Dans ce laboratoire du Muséum d'Histoire Naturelle, on regarde comment un morceau de corail peut se régénérer en prenant appui sur de la dentelle. C'est Jérémy Gobet, plasticien dans la vie, qui a découvert par hasard la dentelle blanche en coton très particulière, fabriquée par une entreprise du Puy-en-Velay. Il y a vu immédiatement des ressemblances avec les cellules dont sont constitués les coraux. Et il s'est alors tourné vers une scientifique pour développer son projet.
Le corail a besoin d'un support pour se développer, d'utiliser de la dentelle pour faire pousser du corail et après ce corail, pourquoi pas le réimplanter dans les milieux où il a besoin. La dentelle, elle, est en coton biodégradable. Donc l'idée, c'est d'utiliser cette matière qui, in fine, va disparaître au moment où le corail sera développé. Une fois que la dentelle a disparu, c'est comme si on n'était pas intervenu.
Et les résultats sont déjà spectaculaires. Du corail sans vie peut se régénérer après avoir été posé pendant seulement quelques semaines sur de la dentelle. La prochaine étape, c'est d'aller faire des tests en situation dans le fond des mers, dans les dom-toms ou sur la grande barrière de corail.
Lors d'Autriche, la spécialiste environnement d'Europe, Carlos Ghosn, vient d'être inculpé à Tokyo après 3 semaines de garde à vue. Le dirigeant de 64 ans est maintenu en prison. Les autorités lui reprochent d'avoir omis de déclarer 38 millions d'euros de revenus entre 2010 et 2015. Le groupe Nissan a lui aussi été inculpé.
Parlons football, David. La dernière journée de Ligue des Champions commence demain.
Oui, et le Paris Saint-Germain joue sa qualification pour les huitièmes de finale en déplacement face à l'Étoile Rouge de Belgrade. La victoire est impérative dans un stade connu pour être bouillant, le Maracana, dans la capitale serbe, avec ses supporters parfois violents. On redoute des débordements. Oui, Mathieu, on m'a demandé d'aller vite, et donc je lis très vite. Je vois votre regard.
Non, c'est
avec le club parisien. Alors le club parisien
Usain Bolt du News
a mis les gros moyens pour assurer la sécurité de ce déplacement. Julien Froment.
Le Paris Saint-Germain ne lésine pas sur les moyens pour assurer la sécurité de ses supporters. Le déplacement a été organisé, cadré, minuté du début à la fin par le club. Pas moins de 3 avions ont été affrétés. Une fois arrivés là-bas, des navettes achemineront les supporters au stade. Le but, c'est d'éviter tout contact avec les supporters serbes. À la fin du match, les Parisiens reprendront les navettes direction l'aéroport de Belgrade. Retour pour Paris dans la nuit. Jonathan, 6 ans de déplacement avec le PSG derrière lui, a rarement connu un tel dispositif. Pour autant, il n'est pas inquiet pour sa sécurité.
Forcément, il y a une petite crainte parce que c'est un pays qui est très sulfureux en matière de supporterisme. Je pense que mes parents vont être inquiets de savoir que je vais à Belgrade, par exemple. Mais je pense qu'on n'aura pas de contact avec les supporters serbes. Très sincèrement, non, j'ai pas plus peur que ça. J'ai, oui, une petite appréhension, mais encore une fois, ça fait partie de l'excitation du truc, je dirais.
L'ambassade de France en Serbie appelle à la plus grande vigilance et recommande fortement d'éviter de circuler en ville avec les couleurs du club parisien. Des craintes légitimes, car en 2009, le Toulousain Brice Tatton y avait perdu la vie sous les coups des supporters de l'autre club de la capitale serbe, le Partizan Belgrade.
Julien Froment du service sport d'Europe 1. Alors j'ai voulu lire tellement vite ce lancement qu'on a pu comprendre que je croyais que le club de Belgrade s'appelle le Maracana. Non,
le
on le surnomme le Maracana en référence
au célèbre stade brésilien. Voilà. C'était le journal de David Doucan. David qui, non content de vous livrer un journal extrêmement rigoureux journalistiquement, ça j'avais écrit ça avant, vous propose aussi désormais, en partenariat avec Céline Dacosta, une formule plus low cost intitulée « Vue du Balto ». 30 ans après Jean Carmet dans Palace, découvrez les nouvelles brèves de comptoir.
Les personnes âgées se réjouissent parfois de la pluie parce qu'on respire mieux quand il pleut.
Oui, mais ils ont mal aux genoux.
C'est passionnant, mais si on passait à la météo. Céline, ressaisissez-vous.
Oui, le vent qui se calme dans le sud-est, tout va bien. Je suis encore un peu jeune pour ça. Quelques bonnes rafales encore ce matin près de la Méditerranée, mais c'est beaucoup plus calme que ce week-end. Sur les Alpes aussi, ça va souffler à 90 km à l'heure. Cet après-midi, le calme sera revenu. Le soleil sera présent sur ce secteur toute la journée. Sur la Bretagne, les Pays de la Loire également pour ce matin. Et puis, il s'étendra à toute la moitié ouest pour cet après-midi. Pour les autres, c'est encore un ciel couvert avec des averses ponctuelles, quelques rayons de soleil possibles. Le tout sous des températures qui iront de 7 à 17 degrés du nord au sud pour cet après-midi, avec 10 degrés à Paris. Là, ce matin, la moyenne va de 5 à 12 degrés.
Merci Céline. Eva.
Alors mon cher David, je ne sais pas si vous avez entendu la question que nous avons posée aux auditeurs, c'était quel est leur film de Noël préféré, vous savez, parce que W9 diffuse ce soir Love Actually. Eh bien, nos auditeurs nous ont répondu sur Twitter avec la hashtag Europe 1, Ben-Hur par exemple, pour Hubert, de 1959 avec Charlton Heston.
C'est l'ambiance de Noël, ça.
Et voilà,
bah
et
oui,
pareil,
chaque année,
et pareil dans les grands films comme ça, Stéphane nous a dit Les 10 commandements, le film toujours aussi long. 3h40, je viens de vérifier. 3h40 pour les 10 commandements. Merci à tous pour tous vos messages ce matin.
Merci, chers auditeurs.
Il est 6h42, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures où l'info fricote dangereusement avec le rire. Et tenez-vous prêts car ils arrivent. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent. Un film culte à ne pas manquer ce soir à la télé. Le modèle agricole français élu le plus durable au monde par le journal The Economist. Et un avant-goût en avant-première du discours d'Emmanuel Macron ce soir grâce aux indiscrétions de Mickaël Darmon. Un programme comme ça, comme dirait Varoc.
J'en mangerai sur la tête d'un pouilleux.
Ah oui, c'est une autre culture quand même, Nice. Hein. C'est autre chose.
Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Le président de la République s'exprimera ce soir à 20h depuis l'Elysée, allocution solennelle sur toutes les chaînes. Des mesures en faveur du pouvoir d'achat sont attendues. Le gouvernement et la majorité espèrent que cette intervention permettra d'apaiser le pays en crise depuis 3 semaines. Avant cela, Emmanuel Macron recevra les syndicats, le patronat, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les associations d'élus locaux. Objectif, consulter, mais surtout essayer d'associer les corps intermédiaires à son effort pour réconcilier le pays. Enfin, la journée sera aussi marquée par une mobilisation des agriculteurs. Le monde paysan s'apprête aujourd'hui à interpeller les autorités par des actions dans toute la France axées sur la pression fiscale qu'ils subissent et leur rémunération qu'ils jugent insuffisante.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
6h44 et ma chère Eva Roch. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que là tout de suite on va retrouver la séquence des trois fantastiques avec Mickaël Darmon pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie et vous au milieu pour les médias.
Même sensation que dans l'acte sexuel.
Mais c'est à n'en pas douter un des moments les plus excitants, c'est vrai, va, de ce 5-7, l'heure où trois éditorialistes sans concession osent mettre sur la table les questions les plus brûlantes du moment, parfois aussi les plus subversives.
Vous avez déjà fait de l'acrobranche ?
Bien, Mickaël Darmon, okay, on va plutôt commencer par vous et la politique, ça c'est sérieux. Aujourd'hui, Emmanuel Macron sort de son silence devant les responsables de la majorité et ce soir, lors d'une allocution à la télé, de quelles informations disposez-vous sur ce discours si attendu ?
Officiellement, aucune. Mais officieusement, si on fait la synthèse des propositions et recommandations qui nous sont transmises, eh bien, les sujets principaux tournent autour de deux urgences. Le pouvoir d'achat et la question de la vie dans les territoires, les régions, avec un nouveau pacte décentralisé pour arrêter de tout décider d'en haut et laisser l'échelon local décider de la manière de s'adapter aux réalités économiques et écologiques. La grande consultation de la semaine dernière, on l'avait rencontré, un fait ressortir aux yeux d'Emmanuel Macron, eh bien, selon plusieurs de ses interlocuteurs, le besoin de répondre aux préoccupations urgentes des Français qui se sentent solidaires des gilets jaunes. Donc, est-ce qu'il s'agira des baisses d'impôts, d'augmenter la prime d'activité, de décider d'une hausse des salaires ? Eh bien, il faudra bien entendu attendre l'arbitrage final encore en cours de la journée. Mais ces pistes sont examinées pour tenter d'éteindre l'incendie fiscal et social. En fait, les Français ont envie d'entendre ce que le président a reconnu en petit comité vendredi, devant quelques élus locaux. On paye trop d'impôts et trop de taxes dans ce pays. Des informations révélées par Europe 1 samedi, en direct par deux des maires qui ont passé 3 heures avec le chef de l'État. On est certain de 2 choses. En revanche, pas de rétablissement de l'ESF, pas d'augmentation du SMIC.
Il y a aussi une autre urgence à traiter, Mickaël, le lien entre le président Macron et les Français qu'il faut renouer.
Et là, les mots ont toujours leur importance. L'intitulé de l'intervention ce soir, le président de la République s'adressera à la nation. En général, la formule s'adresse aux Français. Emmanuel Macron l'entend à chaque fois qu'il sollicite des avis. La méthode, le style et certains propos ont exaspéré les Français. Il le sait, il le perçoit. Et pour renouer ce lien avec les Français, un projet est à l'étude. Un tour de France des maires. C'est une confidence aussi du président qu'il a donnée aux élus qu'il a rencontrés vendredi dernier. Mais pour l'heure, il faut d'abord réussir à faire en sorte que les Gilets jaunes aient tout simplement envie de l'entendre. Parce que le point de ralliement des Gilets jaunes, eh bien, c'est la convergence de leur lutte contre le président de la République en personne.
Merci Mickaël Darmon. Et tout de suite, quelques bonnes nouvelles quand même avec vous, Axel de Tarlé. Le modèle agricole français serait le meilleur du monde. Il arrive en tête, en tout cas, dans une étude qui mesure la durabilité de notre façon de cultiver la terre.
Voilà, alors ça peut sembler surprenant parce que vous savez, on reproche beaucoup à nos agriculteurs d'utiliser beaucoup de pesticides, de glyphosate. Alors, c'est une étude qui a été réalisée par le sérieux magazine The Economist, qui a mobilisé sa cellule d'économistes et qui a donc comparé les modèles agricoles dans 67 pays qui représentent 90% du PIB de la planète. Alors, qu'est-ce qu'on a comparé ? On a comparé la bonne utilisation de l'eau, la préservation des sols. Est-ce qu'il y a du gaspillage ? Vous savez qu'on gaspille un tiers de la production agricole. Est-ce qu'il y a aussi une production adéquate ? Il va falloir nourrir demain 10 milliards d'êtres humains d'ici 2060. Et bien, on a mis des notes sur tous ces critères. Il y a 40 critères en tout. Et à la fin, le modèle qui est arrivé numéro 1, le meilleur du monde, c'est le modèle français devant... Le modèle en numéro 2, c'est les Pays-Bas et en numéro 3, c'est le Canada. Surprenant, hein ?
Mais surprenant, mais nos agriculteurs utilisent beaucoup de pesticides, vous le disiez tout à l'heure.
Oui, mais alors on réalise que ce n'est pas forcément mieux ailleurs. Et puis surtout, alors j'étais très frappé en lisant cette étude, il cite plusieurs fois la volonté qu'il y a en France, par exemple, de sortir du glyphosate d'ici 3 ans. Mais il y a aussi, par exemple, en matière de gaspillage, il y a une loi qui a été passée en 2015 pour forcer les grandes surfaces à distribuer, vous savez, leurs invendus à des associations caritatives. Il y a aussi une volonté en France de passer à la jachère, de laisser reposer la terre. Et puis en France, il y a moins d'obèses qu'ailleurs. Vous voyez, on a l'impression que cette étude a voulu saluer cette volonté qu'il y a en France d'aller vers une transition, de notre modèle agricole. Ben, ça donnera beaucoup de baume au cœur à nos agriculteurs qui, vous savez, manifestent toute
oui,
la semaine.
Mais ça ne suffira pas. Ils réclament surtout des meilleures rémunérations.
Oui, mais ils manifestent aussi contre ce qu'ils appellent l'agro-bashing. Vous savez, il y a encore Greenpeace qui a publié une liste de 4000 fermes-usines. C'est pire, en Allemagne, il y a des fermes où il y a 4000 bêtes. Nous, chez nous, jamais on dépasse les 1000 bêtes. Et c'est ce qu'a voulu montrer cette étude, c'est que la France, nos agriculteurs, ça leur fera plaisir, sont à l'avant-garde de cette volonté d'aller vers un modèle plus durable. Si vous comparez, par exemple, l'Espagne est 19e, la Chine 23e, les États-Unis 26e, vous voyez, quand on se compare, on se console et on peut dire un petit bravo à nos agriculteurs.
Et surtout, je pense aussi, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'en France, on est pas mal sur le bio aussi, parce qu'on en trouve de plus en plus de produits bio, voilà, l'agriculture bio, les surfaces cultivées bio.
Il y a une volonté de faire cette transition, d'aller vers une agriculture plus durable, et la France est à l'avant-garde de cette transition.
Merci Axel de Tarlé. Enfin, Eva Rock, on parle télé, avec ce soir la diffusion du film Feel Good par excellence, car dès qu'il entend cette musique... Axel de Tarlé, le dauphin d'or, se met à remuer son popotin comme Hugh Grant dans cette scène mythique du 10 Downing Street. Et il traverse la rédaction d'Europe 1 en déclarant qui veut l'entendre.
You're the one that I want.
Parce qu'il mélange un peu tous les films musicaux. Mais ce soir, c'est bien Love Actually qu'on regarde, Eva.
Oui, alors d'abord, si vous avez envie des envies d'évasion, d'océan et de falaise, je vous conseille quand même le très beau numéro Thalassa à 21h sur France 3 qui est consacré à la région qui est coincée entre Bilbao et Biarritz, avec notamment un sujet sur Grégory Rabejac qui est photographe au cœur des vagues. C'est absolument bluffant et je vous le recommande. Mais effectivement, si vous avez des envies de romantisme, de chant de Noël et traits d'humour à l'anglaise, direction W9 pour le film diffusé chaque fin d'année, Love Actually, film choral qui, à quelques jours de Noël, met en scène des personnages qui découvrent ou redécouvrent l'amour. Au casting, Emma Thompson, Colin Firth, Liam Neeson ou encore Hugh Grant en premier ministre, fraîchement élu, rencontre avec son père personnel et notamment la très belle Nathalie.
Et voici Nathalie, nouvelle comme vous.
Enchantée Nathalie.
Ravie David, monsieur le ministre. Merde, comment j'ai pu dire ça? Et en plus, j'ai dit merde, deux fois de suite. Oh, monsieur, toutes mes excuses.
C'est pas grave, voyons. Vous auriez dit putain, là, nous aurions été dans la merde.
Ça, c'est vrai. J'avais le pressentiment que le premier jour, j'allais merder comme une conne.
Oh, oui, putain.
Alors, Hugh Grant, personnage, à mon sens, le plus croustillant de cette comédie romantique.
Mais regardez Love Actually en français, c'est un peu un sacrilège.
Oui,
quand même,
je sais, mais c'était pour les extraits, c'était plus facile pour nos
oui,
éditeurs.
C'est sûr qu'il n'y a pas
ça.
Les sous-titres en radio.
Voilà,
c'est
on
ça
est d'accord.
Vous...
Exactement.
Vous
exactement.
Avez raison. C'est bien vu.
Comédie romantique réalisée par Richard Curtis, le scénariste de Coup de foudre à Notting Hill ou encore Quatre mariages et un enterrement. Avec cette scène géniale, avec encore Hugh Grant, donc dans le rôle du Premier ministre, il est en pleine conférence de presse et il déclare son hostilité au président américain qui se tient juste à ses côtés.
Nous sommes un petit pays, certes. Mais nous sommes une grande nation. Patrie de Shakespeare, de Churchill, des Beatles, de Sean Connery, Harry Potter. Du pied droit de David Beckham. De son pied gauche aussi, quand j'y pense. Quand un ami nous tyrannise, ce n'est plus un ami. Et puisqu'un tyran ne comprend que la force, je suis prêt aujourd'hui à faire preuve de plus de force. Que le président se prépare à y faire face.
Oh,
Alors, on va être honnête. Love Actually, c'est pas un chef-d'œuvre. Les histoires d'amour, elles sont un peu bancales et c'est très guimauve. Mais, et alors, j'ai envie de vous dire, un peu de sucre, un peu de douceur, un peu de sourire en ce moment, ça fait du bien. On va pas s'en priver. Puis en plus, vous avez même Maria Carré en bande originale.
Michael,
la scène mythique du film, la demande en mariage, a été tournée au bar de la Marine sur le vieux port de Marseille.
Petite info en plus.
C'est la demande, non, mais la demande en mariage de quel film? De Love. De Love Actually?
Oui.
Mais il n'y a pas de demande en mariage.
Mais ne révélez pas la fin.
Ah pardon.
Moi, je n'ai pas vu la fin, je me suis endormie.
Ah mince. Vous êtes sûr? Ah oui. D'accord.
Mais...
Ah oui, vous savez, c'est bon. Ouais, ça y est, j'ai repéré.
Bah,
d'accord.
Vous l'avez vachement vu le film.
Mais si, si, si. Mais c'est, pas... y a... Attends, c'est un film choral, il y a ce 40 personnages. Mais ça y est, je sais. Mais c'est un rapport avec Céline Dacosta. Voilà, comme ça, vous pouvez regarder le film jusqu'au bout.
Merci beaucoup, Eva Roque. Merci, Michael Darmon, Axel de Tarlé. Les trois fantastiques sont en retour demain, peu avant 7h moins le quart.
Il est 6h53, Mathieu Noël.
Debout les copains touche à son terme et qu'on se rassure, le meilleur est à venir. D'ailleurs, le meilleur, je l'aperçois par la vitre du studio. Il est encore dans son bureau, mais il se prépare avec la même rigueur que Hugh Grant dans Love Actually. Petit jeu de jambes, déhanché, le voilà qui jongle avec des croissants.
Hey.
Oh.
Hey.
Oh.
C'est bon ça.
Oh, c'est même très bon, Nikos. Le débrief de la matinale de Nikos Aliga, ça suivre.
Il est 6h55.
Debout les copains s'achève, mais c'est désormais de notoriété publique, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Comment ça va, mon cher Nikos?
En pleine forme, mon ami.
Vous êtes en train de vous installer tranquillement, de faire les derniers réglages, il peaufine tout ça. Ce matin, je le fais rarement, j'ai une requête. C'est pas pour moi, c'est pour deux amis, deux collègues qu'en interne on surnomme Catherine et Liliane. Rapport à ces échanges gratinés qu'elles ont parfois durant les pubs, qu'elles commentent avec une vivacité intellectuelle qu'on peut qualifier de rafraîchissante, comme on avait pu le constater le jour du Black Friday.
Chérie, mais qu'est-ce qui se passe là? Il est 5h.
C'est le Black Friday chez Nissan.
Ça, tu peux le passer qu'à 5h.
Mais, non, mais oui, c'est débile.
Mais dis pas, il est 5h. Oui, c'est vrai. C'est pas faux.
Je vais me réveiller.
Peut-être qu'ils en ont fait pour toutes les heures, tu sais.
Oh, ça va.
Deux collègues extrêmement attachantes. J'aimerais leur faire plaisir. Or, je sais qu'il y a un groupe qu'elles aimeraient beaucoup voir en concert, Nikos. Enfin, surtout Céline Dacosta, je vais vous dire. Elles avaient des posters d'eux dans sa chambre d'adolescente à Blois, à côté de ceux de Roger Hanin. 20 ans après, elle n'a rien oublié. Vendredi, quand elle a appris qu'il remontait sur scène, peut-être avec l'aide d'un déambulateur, peut-être avec une bouteille à oxygène. Mais enfin, il remontait. Elle était surexcitée.
Ils passent en concert, les Boys to Men.
Qui ça?
Les Boys to Men, je veux qu'ils passent.
Les Boys to Men.
Voilà, alors forcément, Nikos, comme vous faites la pub beau temps dans l'industrie du disque, hein, The Voice, les Energy Music Awards, je me suis dit que peut-être, en passant un petit coup de fil, vous pourriez dégoter deux places en carrière à Céline. Qu'est-ce que vous me dites?
Caramba.
Ah, ça doit vouloir dire banco en grec. C'est bien. Enfin, en ce qui vous concerne, vous, Nikos, vendredi,
oui,
ma foi,
disais.
Quasi. Ben non, mais oui, mais quasi rien à redire. Vous avez frisé. Mais si,
vous
mais
êtes
si,
trop bon.
Vous avez frisé le sans faute. Bon. Ok, vous êtes endormi durant la chronique internationale de Vincent Herbouet. Mais peut-on vraiment parler de faute?
Parlez-moi de la pluie, parlez-moi du gros temps. Voilà. Bon, les orages, c'est vrai.
Ça, c'était à la fin.
C'est pas grave, on pourra se redébriefer tout ça. C'était pas le bon son. Est-ce qu'on a le bon son ou pas? Non, on l'a pas.
Si, parce qu'en fait, Vincent m'interpelle en direct et me dit coucou, Nikos.
Ah oui. Mais, vous, mais alors moi, j'ai pas vu.
Mais je regardais.
Ah, vous étiez. Oui. Mais pourquoi vous interpellez?
Bah, je devais avoir un regard un peu bovin.
Mais, voyons voir à quoi ça ressemblait.
On croit un catalogue de vœux pieux, des grands principes.
Non, je crois que
l'homme est en même temps à la souveraineté
nationale. C'est discret.
Avec une vingtaine d'objectifs de coopération. Ne vous endormez pas, Nikos, courage.
Je vous écoute. Je vous écoute. C'est pas beau de mentir. C'est professionnel, mais c'est pas beau.
Merci beaucoup, Mathieu Noël. Bonne semaine.